France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Bernard Tapie, le sale gosse. Épisode 2, repreneur de l'esbrouf. Si vous désirez devenir riche alors que vous n'avez pas un sou en poche, cet épisode va vous expliquer comment faire grâce à la méthode Tapie. Il l'a testé et approuvé pour vous. Il a même écrit un ouvrage dans lequel il livre tous ses secrets. Ce livre, ça n'est pas « The Art of the Deal » de Donald Trump, l'art de la négociation en français, mais plutôt une autobiographie émaillée de conseils pour réussir et dont le titre est « Gagner ». Cette méthode Tapie, nous allons vous la livrer afin que vous puissiez vous aussi devenir riche, mais sachez tout de même que si vous vous retrouvez ruiné après l'avoir appliqué, Radio France décline toute responsabilité pour votre perte. Eh bien, prenons un exemple. Vous n'avez pas d'argent, mais vous avez du bagout. C'est un ingrédient important de la recette. Vous apprenez qu'une entreprise, disons de chaussures, est en faillite juste à côté de chez vous. Plus personne n'achète ses produits car les baskets qu'elle fabrique sont plus chères que celles qui viennent d'Asie. En cherchant bien, il y a tout de même un produit qui se vend bien. Ce sont des crocs en peau de serpent qui surfent sur la mode des sandales de luxe. Je précise que l'action se situe dans un futur assez éloigné. Alors vous flairez le potentiel de cette entreprise en faillite et vous la rachetez. Ici, faites bien attention à ne pas dépenser davantage qu'un euro symbolique, ce qui est déjà 6,5 fois plus cher que le franc symbolique qu'avait l'habitude de débourser Bernard Tapie. Bah ouais, y a tout qu'augmente. Pour faire accepter de ne payer qu'un seul euro pour récupérer une usine tout entière, il va vous falloir promettre beaucoup de choses à beaucoup de gens. Pas de licenciement, respect des normes environnementales, retour de l'être aimé dans les 48 heures. Pour que ça marche, chacune des parties prenantes doit donc avoir entendu de votre bouche ce qu'il a eu envie d'entendre. Ceci est également un point très important. Et c'est seulement à ce moment-là, quand chacun est payé de paroles et de promesses, qu'on finit par vous vendre l'entreprise en question, enfin plutôt qu'on vous la donne. Si vous n'avez pas réussi à obtenir qu'on vous donne l'entreprise pour 1 euro symbolique, ça peut encore s'arranger. Une autre variante consiste en effet à contracter un prêt qui sera remboursé, non pas par vous, mais par l'entreprise que vous achetez avec ce prêt. Une fois que vous possédez l'entreprise, il vous faut à présent oublier vos promesses. Ce point aussi est très important et il faudra être très rigoureux dans son exécution. Pensez bien à ne pas les oublier à moitié ces promesses, car si vous faites ce que vous aviez promis que vous feriez, il y a toujours le risque que vous manquiez votre but et que vous ne deveniez finalement pas riche, ou en tout cas pas vraiment riche. Une fois que vous êtes propriétaire, vous stoppez net la fabrication des chaussures déficitaires, vous licenciez le personnel qui était affecté à cette production et vous ne gardez que ce qui est rentable, c'est-à-dire les crocs en peau de serpent destinés au marché du luxe. À partir de là, logiquement, vous êtes sur le bon chemin. 3 ans plus tard, votre entreprise est de nouveau florissante et vous la revendez pour quelques millions de plus. Cette méthode est également expliquée dans l'épisode 2 de la série Tapie.
Vous ciblez une entreprise en faillite ? Prête à céder ses actifs et son passif pour un franc symbolique. Vous épluchez ses comptes, ses stocks, ses bilans, ses clients, tout ce que vous pouvez vous procurer sur la boîte. Et après ça, si vous pensez que vous pouvez en tirer quelque chose et que vous n'êtes pas déjà complètement découragé, vous montez un plan de reprise avec montage financier, stratégie à court, moyen, long terme, expertise juridique, bilan prévisionnel. C'est ce plan de reprise que vous soumettez au tribunal de commerce en espérant que votre réputation suffise à les convaincre de la viabilité de votre offre.
Ah bah en gros, il suffit de fouiller dans la merde, de trouver une boîte à peu près viable et un gars qui vous pointe un dossier en béton, quoi.
Ce que l'on vient d'entendre, c'est la version vulgarisée de ces jeux d'écriture employés par Bernard Tapie, simplifiés pour les besoins d'une série. Dans la réalité, Tapie était capable d'organiser des montages financiers bien plus complexes, des tours de passe-passe qui impliquaient diverses entreprises se rachetant les unes les autres et qui le rendaient, à la fin, propriétaire de sociétés alors qu'il n'avait pas l'argent pour les acheter. Son modèle d'affaires était basé sur l'interprétation de la loi, le contournement de l'esprit des règles financières et aussi le dicton qui dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs des autres. Pour ce qui était des syndicats, Tapie savait parfaitement se rendre sympathique auprès d'eux. Non pas parce qu'il agissait de façon plus sociale que les autres repreneurs d'entreprises en difficulté, mais parce qu'il venait du même monde qu'eux, parce qu'il avait les codes de la classe ouvrière.
Mais les syndicats, j'ai jamais eu à les retourner, en fait. Je leur chante une chanson.
Oui ? Le quoi ?
J'aurais voulu être un artiste.
J'aurais voulu être un artiste. Ils comprennent ?
J'apprécie beaucoup. Oui,
oui. Oui.
Au fond, ce qui compte pour réussir, c'est de convaincre. Je propose ce qu'on appelle ça le capitalisme du charme. Tapie, par exemple, a su séduire les héritiers d'Adidas en leur promettant qu'ils pourraient continuer toute leur vie à faire du shopping gratuitement dans les magasins de la marque. Un cadeau dérisoire, mais qui touchait juste. Car s'ils pouvaient continuer à se servir dans les étalages, psychologiquement, c'était un peu comme s'ils n'avaient pas vendu Adidas. Imparable. On croit souvent à tort que l'économie est simplement une question de chiffres, alors que c'est une matière avant tout psychologique. Tapie n'avait pas eu besoin d'aller à l'université pour le comprendre. Quelques livres de psychologie lui avaient suffi pour cerner les désirs profonds de celles et ceux qui traitaient avec lui.
En ce moment, je suis complètement sur les bouquins psychanalytiques parce que je suis comme un fou. Je suis en train de lire Janov, Grodek et tous ces gens. Et je m'aperçois qu'il y a tellement à apprendre de cette partie-là. On se rend compte qu'en fait, tout se passe dans les 12 centimètres qui sont au-dessus de nos yeux, qu'on peut difficilement éviter d'avoir à la fois à faire passer des messages, à la fois à faire adhérer des gens à des concepts et oublier qu'on marche tous à un certain nombre de phénomènes qui ressemblent à la psychanalyse.
Mais quelle a été cette épopée de Bernard Tapie, repreneur d'entreprises en faillite dans les années 70 et 80? Quel manager était-il? Et comment a-t-il réussi les coups les plus étonnants, comme de reprendre les châteaux d'un despote africain pour un dixième de leur valeur? C'est ce que nous allons voir au cours de cet épisode. Valérie Lecable, vous êtes journaliste, éditorialiste à lejournal.info, ancienne directrice de la rédaction de France Soir, et vous avez co-signé une biographie de Bernard Tapie, il y a quelques années déjà de cela, intitulée Le Flambeur. Est-ce que vous diriez que, en affaires, Bernard Tapie jouait avec les lignes?
Écoutez, ce que je sais, c'est que chez Bernard Tapie, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que quand il a décidé d'obtenir quelque chose, tout est bon. Il peut raconter n'importe quelle histoire, il peut faire effectivement un chantage. Quand il va s'emparer de Marseille, quand il va décider ensuite qu'il veut devenir maire de Marseille, il va utiliser tous les réseaux marseillais, y compris les plus sombres de cette ville qui était très compliquée, et avoir des hommes de main à lui pour aller effectivement chercher les informations qui dérangent, les informations qui peuvent lui être utiles, et pour négocier des deals autour de ça. On apprendra un jour, par exemple, que lui, qui était le pourfendeur de Jean-Marie Le Pen, et on l'avait révélé dans notre livre, au moment des élections municipales, régionales de l'époque, avait rencontré Jean-Marie Le Pen pour obtenir ses voix au deuxième tour pour être essayer d'être élu président de région, ce qu'il n'a pas été, alors qu'il lui tapait dessus toute la journée.
Les entreprises qui sont passées par les mains de Bernard Tapie sont innombrables. Certaines, il ne les a possédées que quelques jours, voire quelques heures, juste le temps de les acheter et de les revendre, non pas comme un repreneur et un industriel, mais bien plutôt comme un trader. Évidemment, au micro de Jacques Chancel, Tapie dément ses méthodes à la hussarde et donne l'image d'un patron responsable. Nous sommes en 1984.
Vous vous considérez un peu comme un aventurier, avec un grand A.
Je crois...
Et vous vous amusez de cette position?
Non, je crois pas. Le métier de chef d'entreprise est beaucoup trop sérieux pour admettre l'idée qu'on puisse tenter l'aventure. On a aujourd'hui, heureusement, des paramètres qui sont très sécurisants quant aux analyses qu'on peut faire. Vous savez, si on reprend une affaire, il faut qu'on traduise immédiatement dans les faits la capacité qu'on a de la remonter. Et l'aventure, c'est un peu le contraire de ça. L'aventure, il faut admettre l'inconnu, il faut admettre l'aléa, il faut admettre l'incertitude. Dans nos métiers, on peut pas l'admettre, parce qu'elle est génératrice de trop de dangers. C'est comme si un pilote de 747 commençait à inventer des itinéraires ou à faire des loopings pour se faire plaisir. Il a des responsabilités collectives qui l'empêchent de tenter l'aventure. Alors, à titre personnel maintenant, quand je suis en dehors de mes responsabilités, j'adore l'aventure, j'adore l'imprévu, j'adore l'aléa.
Enfin, vous êtes aujourd'hui Bernard Tapie à la tête d'une société florissante. Je voudrais savoir quels sont les enfants qui ont été penchés, qui ont été vraiment mis dans votre berceau.
Actuellement, on a un nombre de sociétés qui correspond à 40, je crois.
Oui.
Quarantaine.
Qui emploie combien? Combien de personnes?
Un peu plus de 8000.
8000, oui. Pas mal d'être à la tête de société de 8000 personnes,
ouais,
quand même.
C'est pas l'objectif en soi. Hein. L'objectif en soi, c'est d'avoir pu faire les affaires que j'avais envie de faire et de les avoir sauvées. Mais bon, effectivement, le fait est que 9000, puisqu'on a 8000 et quelques, doivent leur emploi d'aujourd'hui au fait qu'on
a réussi. Alors, il y a qui?
Comme société?
Oui. Ça, dites-moi quel nom.
C'est sympa. Il y a la vie claire, il y a Toshiba, il y a l'herbier de Provence, il y a Look, il y a Micmac.
La clé de Bernard Tapie, vraiment, je pense qu'il faut retenir une chose, c'est qu'il a inventé ses vérités successives toute sa vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a franchi des étapes, il a toujours re-raconté l'histoire à sa sauce, à lui. Bon, ça, Jacques Chancel, il n'était pas spécialiste de Bernard Tapie, c'était pas facile.
C'était un spécialiste des médias, il aurait pu s'en rendre compte.
C'était pas facile à détecter en réalité, parce que il faisait ça avec brio. Alors combien j'ai d'employés, ça doit être à peu près 8000. Si c'est 6000, qui va aller vérifier, c'est pas sûr. L'information n'était pas aussi décryptée qu'aujourd'hui. Et en plus de ça, c'était compliqué parce que la multitude de ces opérations successives masquait celle d'avant. C'est-à-dire qu'il passait d'un scoop à un autre, en fait. Et quand vous étiez dans l'acquisition d'après, les gens n'allaient pas trop vérifier ce qui s'était passé dans l'entreprise d'avant.
Est-ce qu'il y avait quand même des entreprises qui fonctionnaient bien, authentiquement, dans ces années 70-80, quand il a, donc on ne sait pas combien, 7000, 8000 salariés sous ses ordres dans différentes sociétés? Est-ce que quand même il faisait un travail de réel repreneur? Et est-ce qu'il arrivait à remettre sur pied un certain nombre de ces entreprises?
Si vous voulez, moi, ce que je dirais, c'est que le talent qu'il avait, c'était d'arriver à faire revivre cette entreprise. Mais l'histoire, c'est qu'au bout d'un moment, s'il n'arrivait pas à trouver un débouché suffisant, s'il voulait rentabiliser vraiment la boîte, parce que tout ça, c'était quand même fait pour son gain financier personnel, il fallait que lui fasse rentrer l'argent personnellement, soit il la revendait, et à ce moment-là, advienne que pourra de la boîte en question. On n'a pas aujourd'hui, en dehors de Adidas, dont on parlera peut-être plus tard, on n'a pas de grosses entreprises du temps de Bernard Tapie qui soient prospères encore aujourd'hui.
Pour compenser le fait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il misait beaucoup sur ses qualités de manager et il était capable d'aller jouer au foot un dimanche avec ses employés. Il était capable comme ça de motiver et en même temps d'être à la fois cajoleur et peut-être aussi très dur. Est-ce que ce côté managérial était important, selon vous, Valérie Lecable, dans la reprise de ces entreprises?
C'était un illusionniste, Bernard Tapie. Moi, j'ai souvent pensé que s'il avait mieux compris quelle ligne il ne fallait pas franchir, c'est quelqu'un qui aurait pu devenir président de la République.
Dans son livre « Gagner », que j'ai déjà évoqué au début de l'épisode, Bernard Tapie a détaillé ce qu'il appelle « la règle des 3-20 ». Là encore, une méthode pour convaincre. Il était interrogé à ce sujet à la radio en 1986.
Il y a une chose que j'aime beaucoup dans votre livre. Vous dites qu'il y a la règle des 3-20. Mmh. Alors les 3-20, ça veut dire les 20 cm du visage. Ça, je pense que c'est la sympathie, ça accroche ou ça accroche pas.
Ouais.
Il y a les 20 premiers mots, les 20 premières secondes.
Ouais.
Alors pour un banquier, quels sont les 20 premiers mots?
Non mais pour tout le monde, je crois qu'on est dans un monde très pressé où les gens se font une idée des autres que très superficiellement. Et comme c'est vrai, on n'a pas tellement le temps d'aller, quand on ne connaît pas les gens comme ça, les découvrir. Il faut essayer que les trois premières 20 secondes soient sympathiques, quoi, qu'elles vous donnent d'envie que ça dure plus longtemps. Les 20 cm du visage, c'est pas du tout une question d'esthétique, c'est une question effectivement de sympathie, de gentillesse, de charme.
Ça accroche ou ça accroche pas?
Et puis après, les 20 premières paroles, il vaut mieux que dès le départ, on ait l'impression que ce que vous avez à dire est quelque chose qui va l'intéresser. Donc c'est une règle que j'ai inventée un peu, mais c'est pas moi qui l'ai mis en pratique le premier. Et qui répond au souci d'essayer de séduire le plus vite possible. Mais sur un banquier, heureusement, ça se fait pas comme ça, dans la mesure où, en général...
Il faut plus de 20 secondes.
Oui, puis j'étudie avec un peu plus de recul.
Valérie Lecable.
Dans le jargon des communicants, on appelle ça « elevator pitch ». Ça veut dire que vous montez dans un ascenseur, vous allez au 6e étage, et dans l'ascenseur, il y a l'interlocuteur qu'il faut que vous accrochiez, que vous alliez chercher. Et donc, l'objectif d'une communication d'excellence, c'est que dans le temps entre le rez-de-chaussée et le 6e étage, vous ayez saisi votre proie, c'est-à-dire qu'il arrivait à saisir très rapidement les gens qu'il avait en face de lui, et y compris ceux qui ne l'aimaient pas. C'est-à-dire que quand il se retrouvait face à des gens dont il sentait qu'il ne pourrait pas aller les choper, là, il les rejetait assez violemment.
Alors, vous qui l'avez rencontré, pour votre biographie, quelle a été votre impression d'avoir en face de vous Bernard Tapie ?
Il a totalement refusé de nous rencontrer pendant l'année entière de notre enquête. Et à la fin, on a insisté, on lui a écrit, on a dit « Écoutez, c'est un peu dommage de faire une biographie de vous sans vous voir, ça va pas être possible ». Et là, il nous a invités à déjeuner rue des Saints-Pères, où il habitait encore.
C'était dans son avant, hôtel particulier.
Voilà, son hôtel particulier rue des Saints-Pères. C'était avant le début de ses affaires financières avec OMVA et le FOCEA qui sont arrivés juste après. Et là, il nous a fait un déjeuner pas du tout ce qu'on est en train de raconter. Ça a été de l'intimidation pure du début à la fin. Il était extrêmement désagréable, extrêmement hautain, en disant « De toute façon, je suis sûr que vous allez raconter n'importe quoi. C'est certainement faux tout ce que vous dites. Faites attention, je vous ferai des procès. » Il savait être faire peur, quoi, c'est-à-dire intimider. Et moi, je me souviens que j'avais fait toute l'enquête sur la partie marseillaise. J'ai reçu des coups de fil à 3h du matin pendant plusieurs mois pour m'intimider avec des injures, des insultes. Enfin, c'était de l'ordre de la voyouserie, quoi, en fait.
Que sont devenues aujourd'hui les entreprises reprises par Bernard Tapie, Look, Terraillon, La Vie Claire ? Eh bien, certaines existent toujours, mais aucune n'est leader sur son marché. D'autres ont mis la clé sous la porte ou ont été diluées dans un plus grand groupe. C'est le cas emblématique de la société de piles Vondair.
On peut toujours compter sur une Vondair.
Contrairement à ce que son nom semblerait indiquer, Vondair, enfin Wonder si on prononce à l'anglaise, mais on ne va pas le faire, Vondair est une société hexagonale créée par Estelle Courtecuisse en 1914. Estelle Courtecuisse avait lancé cette entreprise de piles salines à un moment où les armées françaises en avaient particulièrement besoin durant la Grande Guerre, et cela avait assuré un fort développement à la société. En 1918, elle avait fait construire une usine à Saint-Ouen, en région parisienne, ce qui avait signé le début d'une longue période de prospérité pour le groupe. Sauf que, à partir de 1959, une nouvelle technologie, la pile alcaline, allait remettre en question cette prédominance. Au fur et à mesure des années, les parts de marché de Vondair s'étaient érodées, et c'est une entreprise affaiblie, mais encore de grande taille, que rachète Bernard Tapie en 1984.
Alors, quand vous avez repris Vondair, Bernard Tapie, vous nagiez en plein vaudeville parce que j'ai vu que Vondair, ça appartenait aux familles Courtecuisse et Brouillé.
Ouais.
C'est
oui.
Vrai, ça?
Ouais, ouais, ouais.
Et ça vous faisait pas marrer d'avoir affaire
si. À... Mais quand j'ai vu les bilans, j'ai moins marré. Je me suis moins marré après. C'est vrai qu'on a toujours tendance un peu, en France, à bien se marrer sur les noms.
Oui.
Et je crois qu'il faut en prendre son parti tout de suite parce que sinon, on souffre, hein. Les types qui s'appellent Roule ta cuisse.
Maillot, ça fait Biroute. Hurler de rire.
Ah, c'est très très drôle.
J'ai un gars qui s'appelle Biroute.
Biroute
ouais.
Ah oui, oui.
Ouais.
L'entreprise en Biroute, c'est pas bon pour un repreneur. Hein. Et ça vous gêne pas, Bernard Tapie, que
non.
Les Duracell, ça dure plus longtemps?
Non, d'abord, ça dure pas plus longtemps.
Ah,
faut arrêter ça, c'est pas possible en fait. On continue de raconter.
On va faire de la pub comparative ce matin.
Non, mais le petit lapin qui court plus longtemps que les autres, c'est une connerie sans nom, parce qu'il n'y en a pas une qui dure plus longtemps que les autres.
Ah bon?
Elles sont fabriquées de la même manière. D'ailleurs, souvent, on se sous-traite les uns avec les autres. Il y en a qui. Je fabrique des Duracell, Duracell fabrique de temps en temps des Vondair. Donc, il faut acheter français, quoi, voilà. Hein?
N'avait-il vraiment pas eu accès au bilan de Vondair avant d'acheter l'entreprise? S'était-il vraiment moins marré en les découvrant une fois la transaction faite? Impossible à dire vu d'ici. Mais la technique consistant à accuser ses prédécesseurs d'avoir laissé des trous dans la caisse est un grand classique. Toujours est-il qu'il licencie, contrairement à sa promesse, et tente de relancer la firme. Il le fait notamment avec une publicité de Jacques Séguéla, dans laquelle il se met lui-même en scène, parodiant le lapin Duracell, mascotte de son concurrent.
Qu'est-ce qui fait marcher ta vie? 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 Qu'est-ce qui fait marcher ta vie?
Mais qu'est-ce qui vous fait marcher?
Moi? Je marche à la Vondair.
10 ans après la reprise par Tapie, la dernière usine Vondair est fermée. Quant à lui, il est déjà passé à autre chose. Valérie Lecap, quelle est l'importance de l'épisode Vondair dans la trajectoire de Bernard Tapie?
C'est très intéressant d'entendre vos passages parce que visiblement Bernard Tapie ne parle pas comme un chef d'entreprise habituel. Une fois de plus, à l'époque, on était dans des conférences où les patrons étaient attablés à des pupitres avec des looks extrêmement contraints. Ils utilisaient un vocabulaire très châtié. Et Bernard Tapie a introduit un style qui n'existait absolument pas du tout, cette façon très directe de parler. Et c'est ça qui a enfumé les gens, en fait, finalement. C'est-à-dire ce côté sympathique. Et donc, personne n'est allé vérifier les chiffres et Vendeur, effectivement, a périclité. Mais je dirais que c'était une entreprise parmi d'autres dans son parcours parce que chacune l'a menée à l'étape suivante.
Avec souvent cette technique de prendre ce qui a de la valeur, par exemple des brevets, de les sortir de l'entreprise pour finalement ne garder que la pépite et laisser tout le reste à la poubelle.
Exactement. Et aussi, surtout, de s'appuyer sur la trésorerie de l'entreprise qu'il avait pour pouvoir faire le coup d'après. C'est toujours comme ça que ça fonctionne finalement. Et le fonctionnement même impliquait la brièveté. Il pouvait pas rester trop longtemps dans la même boîte en fait. C'est-à-dire qu'il les saurait un peu et puis une fois que c'était fait, eh ben il passait à la suivante.
Il faut parler d'une autre entreprise dans laquelle Tapie a placé ses intérêts et qui va être le vecteur d'une aventure rocambolesque. Cette entreprise, elle s'appelle Dreger et elle fabrique rien moins que du papier-monnaie, des billets de banque. Tapie aimerait bien mettre la main dessus car fabriquer des billets de banque permet d'ouvrir beaucoup de portes, notamment dans des états où les dirigeants prennent des libertés avec la légalité. Mais il n'arrive pas tout à fait à ses fins. Sa réputation le précède et les actionnaires de Dreger craignent qu'il n'ait la tentation de fabriquer des billets pour lui-même ou pour un quelconque autocrate. Tapie ne se démonte pas pour autant. Quand il se présente face à celui qui s'est fait proclamer empereur sous le nom de Bokassa Ier, il n'hésite pas à se faire passer pour le patron de cette imprimerie de billets. Cela se passe le 1er octobre 1979. Bokassa, c'est cet ancien dictateur centrafricain qui vient d'être destitué par une opération menée par la France. Il est aux abois et en exil. Pour ne rien arranger, il est sérieusement alcoolique. Comme à son habitude, Tapie lui met le deal en main. Le fisc français, lui dit-il, va récupérer toutes tes propriétés en France. Tu as donc deux solutions, soit me vendre tout de suite tes châteaux pour 10% de leur valeur, soit tout perdre. Bokassa prend peur et croit sauver les meubles en vendant à Tapie, à prix cassé, ses châteaux en France. Archives, 24 mai 1984.
Où en êtes-vous des châteaux de Bokassa à propos ? Parce qu'il est revenu Bokassa en France.
C'était le contraire, ce qui est marrant d'ailleurs. Oui. Car dans un sondage, 98% des Français avaient dit, dans un sondage Louis Harris, c'est scandaleux que l'empereur déchu conserve ses châteaux en France, il faudrait qu'on les lui nationalise, ce qui n'était pas possible. Alors tous les partis politiques s'y étaient mis en disant c'est un scandale, etc. Moi j'ai été là-bas, je les lui ai pris, et j'ai pris des tombereaux de gadous sur la tête. Le fait est qu'avec 2% apparemment des gens qui étaient contre, qui les gardent, mais il y en avait peu qui étaient d'accord ou qui étaient ravis du fait que je les lui ai pris. Alors, je sais pas, peut-être que c'est dans ces 2%-là qu'il y avait les gens qui étaient décisionnaires.
À qui appartiennent ces châteaux aujourd'hui ?
Actuellement, ils sont toujours sous séquestre. Oui.
Quelle que soit sa crédibilité, on en revient toujours au même point, Tapie est un séducteur. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter encore une fois, raconter ses histoires comme un charmeur de serpents, car il faut bien le dire, il possède un certain talent de conteur. Cette archive est un peu plus longue que les autres, pour terminer.
J'ai une histoire géniale. Et puis, elle marche bien, en plus, je l'ai fait l'autre fois, grosse tête, elle marche terrible.
Ah oui, mais dites donc, on veut que de l'original, nous. Hein.
C'est dans les non, parce que vous savez qu'on a fait des écoles. On a fait des écoles de marketing et parfois, on a des surprises. Il y avait un gosse qui venait de finir HEC. Lambert, il s'appelle. Lambert, il est connu, c'est les clous. Vous savez, les clous, Lambert. Et le gosse a effectivement convaincu son père de faire toute la promotion de la société pour l'année qui venait. Et puis, il a laissé, effectivement, le boss travailler une semaine, comme ça. Puis, il a dit à son père, ça y est, je suis prêt, je crois que demain matin, vous pouvez venir à l'usine, vous verrez le plan média. Ça s'appelle comme ça, plan média. et quand le père est arrivé avec tout le staff, ils sont arrivés juste avant l'entrée de l'usine, ça a été... Ah Un cri d'horreur terrible. Il y avait une affiche énorme juste à l'entrée de l'usine avec Jésus qui était comme ça. Et en dessous, il y avait marqué « Grâce au clou Lambert, il tient encore en l'air. » Alors, je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler par le père, évidemment. Il m'a appelé, que ce soit que ces méthodes, c'est bien, vous êtes bien ce qu'on m'avait dit, enfin, un vulgaire, un grossier, un machin. Alors, moi, j'ai rappelé le gosse en lui disant, écoute, tu t'es un peu gouré, parce que là, tu vois bien, tu donnes l'image de ton père qui a crucifié Jésus, c'est pas possible, il faut que... Il me dit, mais vous m'aviez dit qu'il fallait pas hésiter de... D'accord, mais si tu donnes une image négative, il faut que tu la donnes sur les concurrents, pas sur toi. Et effectivement, il a fait un autre truc. C'était un peu mieux, mais enfin, bon, quand le staff est arrivé le matin à l'usine pour voir le plan média, ils sont arrivés. Ah ! Gros. Il y avait encore une énorme affiche qui était comme ça à l'entrée, et puis là, il y avait une croix et Jésus à quatre pattes par terre. Et il y avait marqué, s'il avait utilisé les clous en l'envers, il serait encore en l'air.
Bernard Tapie, c'est celui qui ose tout à une époque qui, de plus en plus, nous demande de tout oser. Dans les années 80, décennie de l'argent roi et de la montée du libéralisme, Tapie est parfaitement à sa place. C'est même à se demander s'il n'est pas le symptôme d'une société en train de changer, s'il n'est pas le marqueur d'un tournant plus profond du monde, une société du spectacle qui culmine aujourd'hui dans la mise en scène de nous-mêmes, tout le temps et partout, sur les réseaux sociaux. Nous nous poserons la question au cours du prochain épisode. Bernard Tapie, le sale gosse, une série en 6 épisodes de Salle des Archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production Lily Corner, prise de son Olivier Arnay, mixage Manuel Couturier.